Parole du jour avec Claire Tiercelin.
Bonjour, chers auditeurs. Si en France et dans le monde entier, nous n'étions pas sous le coup de cette épidémie, je serais juste de retour d'un pèlerinage en Terre Sainte que j'aurais effectué du 11 au 19 mars. Mais quelques jours avant notre départ, on nous a fait savoir qu'Israël avait fermé ses frontières et le pèlerinage a été annulé et reporté à des jours meilleurs. Et je comptais, au cours de cette semaine, vous parler des différents lieux que nous aurions visités et des impressions ressenties pendant ce pèlerinage. Je suis déjà allée deux fois en Terre Sainte, mais c'était avec une grande joie que je comptais y retourner avec un petit groupe de Chartres et de Paris et mettre nos pieds dans ceux de Jésus. Depuis le début de la semaine, je vous parle des missionnaires qui ont contribué à l'évangélisation et je continuerai sur ce sujet demain et vendredi. Alors, même si je ne suis pas allée en Terre Sainte la semaine dernière, justement, en ce 25 mars, je vous aurai parlé de Nazareth et de cette grande fête de la Sainte Vierge, la fête de l'Annonciation. Joseph et Marie vivaient à Nazareth. Au début de l'ère chrétienne, Nazareth était un petit village rural d'une cinquantaine de familles. C'est là que vivaient Joseph le charpentier et Marie sa fiancée, et c'est là que Jésus a grandi, qu'il a passé la plus grande partie de sa vie, jusqu'à l'âge de 30 ans, début de sa vie publique. Aujourd'hui, Nazareth est le chef-lieu du district du Nord et la capitale administrative de toute la Galilée. Sa population avoisine les 100 000 habitants, 70 000 dans la ville arabe, dont quelques 32% de chrétiens, 30 000 dans la ville haute, la ville juive. C'est donc dans cette ville, dans la petite maison où habitait la toute jeune Marie, fille d'Anne et de Joachim, que l'ange Gabriel lui est apparu. Rappelons-nous ce moment très important que nous retrouvons dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 1. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Voilà, je suis la servante du Seigneur. Marie accepte ce que l'ange lui propose, être la mère du Sauveur. Aujourd'hui à Nazareth, c'est une basilique qui a été édifiée sur la maison de Marie. Elle dresse sa coupole vers les cieux, en forme de lys renversé, symbole de la pureté de la Vierge, elle qui est née sans péché pour enfanter le Sauveur du monde, comme nous le rappelle le dogme de l'Immaculée. conception. L'Annonciation à la Vierge Marie est d'abord la fête de l'incarnation, puisque Dieu commence en Marie sa vie humaine qui conduira Jésus jusqu'à la croix et la résurrection, jusqu'à la gloire de Dieu. L'Annonciation a inspiré de nombreux artistes, peintres ou sculpteurs. Au cours des siècles, nous pouvons admirer ses œuvres dans les églises, les cathédrales et les musées. C'est l'une des scènes évangéliques les plus représentées depuis les premiers siècles du christianisme jusqu'à nos jours. Le nombre grandissant d'œuvres consacrées à Marie, en particulier à l'Annonciation, reflète la dévotion dont elle est l'objet à la fin du Moyen-Âge particulièrement. Fréquent en Orient chrétien comme dans l'Europe occidentale, présent occasionnellement dans le monde islamique, ce thème a connu des évolutions importantes lui permettant de développer une riche iconographie. Les premières représentations de l'Annonciation dans l'art remontent à l'époque romaine dont héritent les mondes byzantins et orthodoxes, puis le Moyen-Âge européen. À partir du XIIe siècle, le développement du culte marial a pour effet une multiplication des représentations de l'Annonciation, dont la diffusion est maximale au XIVe et XVe siècle. La plus ancienne représentation connue de l'Annonciation serait une fresque de la catacombe de Priscille à Rome, peinte entre le IIe et le début du IVe siècle. À partir du Ve siècle, l'Annonciation apparaît dans les églises de Rome. Entre 432 et 440, l'Annonciation est ainsi représentée en mosaïque sur l'arc triomphal de la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. L'Annonciation fait partie alors des thèmes couramment représentés dans l'art byzantin. On trouve aussi des représentations de l'Annonciation dans des icônes dédiées à la dévotion privée. Dans les sculptures, l'Annonciation est ainsi présente à côté de la Visitation sur le portail central de la cathédrale de Reims et fait face à la même Visitation de part et d'autre du portail gauche de la façade nord à la cathédrale de Chartres. Également en Italie, l'Annonciation de Francesco Mocci est un groupe de deux sculptures en marbre réalisées entre 1603 et 1608 pour la cathédrale d'Orvieto en Ombrie. Le thème est aussi décliné dans les vitraux. Représenté plusieurs fois sous cette forme dans la cathédrale de Chartres, il constitue le thème unique de la grande verrière de l'Annonciation où l'ange et Marie sont là encore séparés par un grand lys. Mais également, une verrière du transept nord de l'église Saint-Eustache de Paris et dans la cathédrale de Laon au XIIIe siècle. Mais c'est en peinture que l'on compte le plus de représentations de l'Annonciation. Et ce sont les plus grands peintres qui ont imaginé, dans des styles et avec des symboles différents, ce que fut l'annonce de l'ange Gabriel qui annonçait à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Parmi les peintres italiens, on peut citer Bellini, Titien, El Greco. Un tableau du Caravage, peint entre 1603-1610, est conservé au musée des Beaux-Arts de Nancy. Une peinture de Sandro Botticelli est conservée dans un musée de Florence, une autre à New York et une autre dans un musée à Glasgow. L'Annonciation de Van Eyck se trouve à la National Gallery à Washington. Un autre tableau, l'Annonciation de l'atelier de Verrocchio, attribué à Léonard de Vinci, est exposé à la Galerie des Offices de Florence. Et nous aurions également un autre tableau de Léonard de Vinci exposé au Louvre, ainsi qu'un de la Croix. D'autres peintres encore ont peint des Annonciations, les peintres flamands, Van der Weyden et Rubens, tableau exposé à la Rubens House à Anvers et qui appartiennent au mouvement baroque. En cette fête de l'Annonciation, Marie a dit oui, voici la servante du Seigneur, que tout se passe selon ta parole. Alors, je terminerai cette émission par une prière écrite par le père Louis Cesbron, chapelain du sanctuaire Sainte-Thérèse des apprentis d'Auteuil. Merci Marie, tu as su accueillir la joyeuse annonce, la visite de notre Dieu. Par ton oui, tu es devenue porteuse de l'heureuse nouvelle, la présence du Fils aimé offerte à notre humanité. Apprends-moi à faire de ma vie une demeure de ton Fils Jésus, à me laisser conduire comme toi, dans la docilité à l'esprit d'amour. Ayant reçu l'annonce, j'en deviendrai le messager. À demain, chers auditeurs.